La vie de William Dewsbury, suite, chapitre X, épitre, augmentation des ouvriers, état des prisons, souffrance des amis, la cause fidélité à leur appel, preuve que cela ne venait pas de l'homme, témoignage de Saul. Les trois courtes épîtres qui suivent sont présentées au lecteur dans l'espoir qu'elles se révéleront à la fois intéressantes et profitables. Elles semblent avoir été écrites durant cette période de souffrance, dont quelques détails viennent d'être rapportés. Elles contiennent, tout comme les précédentes, de fortes indications du caractère de l'auteur, et témoigne à la fois de sa tendresse et de sa vigilance à l'égard du troupeau du Christ, ainsi que de la fermeté dont il était capable lorsque les circonstances paraissaient l'exiger. Pour les tendres, dit quelqu'un qui le connaissait bien, il était d'une tendresse extrême, mais pour les opiniâtres et les hautains, il était tranchant et direct, les admonestant et déclarant le juste jugement de Dieu contre cet état. Dans chacune de ses exhortations, on trouve des expressions d'où l'on peut déduire que certains de ceux à qui elle y était destinée avaient un zèle qui n'était pas entièrement selon la connaissance, se manifestant par une propension à donner libre cours à leurs sentiments sous prétexte de devoir, alors que le silence aurait mieux convenu à un jugement sain et aurait été plus profitable au corps. Tous les saints et enfants du Dieu très haut, demeurez avec Dieu dans la vocation à laquelle vous êtes appelés. Cet appel est la mesure de lumière qui vous est donnée, qui témoigne contre toutes les torsions trompeuses du serpent au-dedans de vous, et scelle en vos esprits l'amour éternel de Dieu, dans la libre alliance de vie en Jésus-Christ. Tous, selon votre mesure, comme vous avez reçu du Seigneur, marchez fidèlement avec lui. Ainsi vous serez gardés purs, nets et irréprochables devant lui, et fortifiés par le bras de sa puissance éternelle contre toutes les tromperies, subtilités, sinuosités et torsions du serpent au-dedans de vous et au-dehors. Je vous enjoins, en la présence du Seigneur Dieu, de demeurer avec Dieu dans ce qu'il vous a communiqué, et de ne pas vous écarter du témoignage de l'Esprit éternel, qui vous a, selon votre mesure, scellé dans la puissance de son amour. Vous qui vous précipitez à parler au-delà de ce dont vous rendez témoignage, vous êtes comme un ivrogne immonde qui se répand sans la crainte du Seigneur, et ainsi vous dépensez et gaspillez pour vos convoitises, et les plaies et la vengeance du Seigneur sont votre part, car aucun ivrogne ni personne livré à la convoitise n'héritera du royaume de Dieu. Vous tous, chers agneaux et enfants du Seigneur, demeurez dans le témoignage de l'Esprit éternel, qui rendra jugement et écrasera en vous la tête du serpent. Ainsi serez-vous armés contre toutes les glorieuses apparences du serpent au dehors, et vous l'empêcherez de s'emparer des Écritures. Le moindre d'entre vous dans la vérité de Dieu renversera tous les prêtres et tous les hommes du monde, qui demeurent dans la sagesse serpentine et font commerce de la lettre les Écritures, parlant et disputant des conditions des saints, comme le diable le fit au sujet du corps de Moïse, mais ne peuvent témoigner que les Écritures soient scellées à leurs âmes par l'Esprit éternel. Or, vous tous qui demeurez dans la vérité selon votre mesure, vous reconnaîtrez que de tels hommes sont des maisons bâties sur le sable, de grands cèdres aspirant vers l'air, des chênes robustes qui se tiennent dans l'orgueil de leur propre conception, mais qui n'ont point de racines. Qu'ils ne parlent donc pas des Écritures, mais qu'ils les amènent au témoignage, qui peut leur rendre témoignage des Écritures. Ainsi le souffle de l'Esprit éternel du Dieu vivant, parlant en vous depuis la puissance du Seigneur, qui a scellé son amour à vos esprits, renversera le fondement sablonneux. Ainsi la maison, les chênes robustes et les grands cèdres tomberont, et le serpent, avec toutes ses sinuosités et ses torsions, aura la tête écrasée, et toutes les tromperies seront renversées, et vos âmes seront gardées pures et nettes, et le nom du Seigneur sera honoré, lui qui accompagne le témoignage de l'esprit de sa propre puissance. En demeurant dans sa puissance, vous régnerez comme des rois sur la terre. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous tous, fils et filles du Dieu Très-Haut, et vous conduise tous dans sa puissance éternelle et puissante, fidèle jusqu'à la fin, afin que vous receviez la couronne de gloire éternelle, qui vous est réservée dans le Seigneur Jésus-Christ, et là vous serez dans le bien, et je demeurerai avec vous pour toujours dans le Seigneur. William Dewsbury, chers amis, réunissez-vous souvent au nom et dans la crainte du Dieu vivant. Prenez garde aux paroles, veillez à ce que le témoignage parle, ce qui abattra vos propres volontés et servira le témoignage en autrui, jusqu'à tuer leur volonté. Prenez garde à vous surveiller les uns les autres d'un œil mauvais, pour épier les faiblesses de chacun, les déclarer à d'autres et découvrir leur nudité. Vous qui agissez ainsi, vous êtes de la même nature que Cham le maudit, et la colère de Dieu sera révélée sur vous, mais veillez les uns sur les autres d'un œil pur simple. Si vous voyez « l'esprit pur » chez quelqu'un en servitude par la tromperie, ne chuchotez pas derrière son dos à d'autres. Mais que le témoignage en vous, qui voit la tromperie et souffre avec l'esprit pur qui en est accablé, déclare et rende témoignage de la pensée du Dieu vivant contre la tromperie, et elle l'abattra, et la semence pure et sainte sera mise en liberté, et votre conscience sera gardée suelikche suelikie suelike suelikte devant le Seigneur, en accomplissant votre devoir. Ainsi votre frère ou sœur captif sera de nouveau arraché à la main du destructeur, et alors vous aurez unité pour toujours dans le Seigneur en ce qui est pur. Que le Dieu éternel de puissance vous garde tous, ses chers enfants, dans sa sagesse pure, afin de marcher fidèlement avec lui et les uns avec les autres. Et que la bénédiction du Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous tous pour toujours. Amen. William Dewsbury, mes chers amis, voici la parole du Seigneur pour vous tous, que mon Père a choisi hors du monde dans son amour éternel, afin de faire connaître en vous sa puissance. Ne regardez pas en arrière, mais jugez cette pensée par ma parole pure, par laquelle j'ai éclairé vos consciences, afin de les exercer envers moi et envers les hommes. Et je vous commande, mes enfants, de demeurer dans mon conseil pur et de lever les yeux vers moi, et je vous accompagnerai de ma puissance, et j'aplanirai le chemin devant vous, en abaissant ce qui est rétif en vous et désobéissant à ma volonté. Ainsi mes voix ne vous seront pas pesantes, ni mes commandements pénibles, mes chers enfants. Et voici ma parole pour vous, rejetez tout ce que je vous ai fait voir comme offensant ma volonté, afin que vos âmes reposent dans le sein de mon amour, et que je vous porte dans les bras de ma puissance éternelle, fidèle jusqu'à la fin, et que je vous couronne de gloire, que je vous ai réservée dans le Seigneur Jésus. Ne méprisez pas mon conseil, mais soyez vaillants et hardis pour la gloire de mon nom, dit le Seigneur Dieu, et ne vous hâtez pas de prononcer des paroles devant moi, mais que vos paroles soient peu nombreuses et savoureuses en tout temps, dispensant la grâce à tous ceux qui vous entendent, afin que mon nom soit honoré en vous tous, mes chers enfants, dans toutes vos paroles et actions. Alors je vous accompagnerai de ma présence puissante, et je vous rendrai redoutable à tous les malfaiteurs, un pour en poursuivre mille et vivre pour en mettre 10 000 en fuite. Ainsi je me ferai un nom glorieux, dans la manifestation de ma puissance en vous, mes fils et mes filles, qui demeurez fidèles dans mon conseil et marchez dans ma crainte. Et vos âmes seront rafraîchies à la fontaine de mon amour dans le Seigneur Jésus, où vous régnerez pour toujours en ma présence. Réunissez-vous souvent pour m'attendre dans la crainte de mon nom, et veillez les uns sur les autres dans l'amour, et je serai avec vous, mes chers enfants, pour vous ordonner dans ma sagesse pure, à la louange et à la gloire de mon grand nom, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Écrit de l'Esprit du Seigneur pour être envoyé au loin parmi les amis, élu à leur réunion, William Dewsbury. Ce ne fut pas une faible preuve de la réalité de cette puissance merveilleuse, qui accompagnait ces témoins d'une réforme vraie, entière et glorieuse, que leurs attaques périlleuses contre l'ordre établi en matière de religion, aient été si manifestement couronnées de la bénédiction divine, et que leurs efforts pour dévoiler fidèlement les préjugés et les corruptions de leur temps aient été suivis d'effets si remarquables. Très tôt, nous trouvons qu'un grand nombre d'ouvriers furent appelés sur le champ, éminemment doués pour leurs tâches, mais surtout pourvus d'une volonté invincible de souffrir l'opprobre pour la cause qu'ils avaient embrassée et de s'exposer à la fureur de la persécution. En l'an 1654, comme Soule nous l'apprend, il y avait plus de 60 ministres, connus sous le nom des vaillants 60 de la parole suscitée parmi les amis, qui voyageaient dans l'œuvre et le service de l'Évangile, travaillant avec diligence à tourner les gens des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu. Mais leurs souffrances suivaient d'aussi près l'accroissement de leur nombre, et tous y participaient plus ou moins. L'année précédente, George Fox avait été jeté dans le cachot de Carlisle, et telle était la malice de ses persécuteurs qu'ils envisageaient encore sa destruction. Mais leur dessein étant parvenu à la connaissance du Parlement, il fut arrêté. L'état des prisons aussi, où tant d'amis passaient une grande partie de leur temps, comme Clarkson nous l'apprend dans son « Portraiture of Cacrism », était difficile à concevoir, certaines par la saleté et un bruit pestilentiel, d'autres par l'exposition à l'intempérie des éléments. En effet, la condition de ces prisons avant les dernières années du siècle dernier était une honte pour toute communauté civilisée. Non seulement à cause de leur état sale, malsain et négligé, mais tout autant parce que toutes les classes de prisonniers y étaient mêlées sans distinction. Il était courant que des amis, le plus souvent des hommes d'un rang convenable, souvent issus de familles respectables ou aisées, soient jetés dans ces sinistres cachots, dont l'un est aujourd'hui conservé à la prison de Warwick et montré comme un vestige des temps passés. Je me souviens l'avoir visité moi-même en 1810, et l'impression que j'en reçus alors ne s'effacera jamais. Haute dans sa description de cette prison, dit « La salle de nuit des criminels est un cachot octogonal d'environ 21 pieds de diamètre, à 31 marches en dessous, humide et fétide, le geôlier en descendant prit un préservatif. » Basil Montagu, dont le nom est si honorablement associé au sujet des prisons, de la discipline carcérale et de la peine de mort pour crime, dit, dans le récit d'une visite qu'il fit à la même prison en 1815, « Cette cave fétide, que l'on peut voir aujourd'hui dans la prison, est à 18 pieds 10 pouces sous terre. Au milieu se trouve un puisard, sur le côté, un filet d'eau pour que les prisonniers apaisent leur soif. Il y a dans le cachot une grande chaîne lourde, qui passait par un maillon des chaînes de chacun des criminels, et qui était alors remontée par les marches et fixée à la porte extérieure de la cave. La seule lumière et l'air admis passent par une grille de fer au sommet, presque au niveau de la surface du sol. Ce sont là les cellules lugubres dans lesquelles les amis furent souvent contraints de souffrir, en compagnie des personnages les plus dépravés, et dans lesquelles, à mesure que ces souffrances abondaient, leur consolation abondait souvent bien davantage. Sous ce sentiment, ils chantaient des louanges à Dieu dans leurs chaînes, et avec William Dewsbury, estimaient les serrures et les verrous comme des joyaux. C'est dans la prison de Warwick que William Dewsbury fut détenu 20 années de sa vie, dont 4 années en détention stricte. S'il fut ou non dans la fosse, ce n'est pas précisé. Et nous n'aurions pas su que tel fut le cas concernant sa détention à la prison de Northampton par aucun témoignage de sa part, car il souffrait avec trop de joie pour insister sur l'ignoble captivité qu'il endura. Mais d'autres ont rapporté qu'il y fut emprisonné dans un cachot à 12 marches sous terre, parmi les pires criminels. Dans un cachot semblable à ce que nous venons de décrire, George Fox fut enfermé pendant 6 mois à Derby, dans un lieu pouilleux et puant, sans aucun lit, parmi 30 criminels. Que quiconque lise le récit qu'il donne du cachot où il fut couché à Launceston, et il croira à peine que de si terribles cruautés et oppressions aient pu, même alors, être pratiquées en Angleterre, ce pays qui se vantait d'être celui de la liberté et du christianisme. Ce lieu était si pestilentiel que, selon l'observation commune, peu en sortait en bonne santé. Il fut contraint de se tenir dans des immondices qui lui montaient au-dessus des chaussures et qui n'avaient pas été nettoyées depuis des années. Et bien qu'on demandât la permission de le nettoyer, il s'écoula longtemps avant que les amis soient autorisés à le nettoyer eux-mêmes. On ne leur permettait ni lit ni paille pour s'y coucher. Et cette cruauté envers les amis ne suffisait pas, mais les prisonniers logés au-dessus, encouragés par le geôlier, déversaient leurs immondices à travers le plancher sur la tête de ceux qui étaient dessous. Ce cachot était appelé Dormsdale. Le chef geôlier avait été un voleur et avait été marqué au fer dans la main et l'épaule, sa femme à la main, et les mêmes distinctions avaient aussi été conférées au sous-geôlier et à sa femme. À la prison de Lancaster, dit George Fox, on mit dans une tour enfumée, où la fumée des feux des autres prisonniers montait si épaisse qu'elle restait comme de la rosée sur les murs, et parfois la fumée était si dense que je voyais à peine la chandelle lorsqu'elle brûlait, et étant enfermé sous 3 serrures, le sous-geôlier, lorsque la fumée était si forte, pouvait à peine être persuadé de monter pour déverrouiller l'une des portes supérieures, par crainte de la fumée, si bien que j'étais presque étouffé. De plus, la pluie tombait sur mon lit, et bien des fois, lorsque j'allais boucher l'entrée de la pluie en la froide saison d'hiver, ma chemise était aussi mouillée que de la boue, à cause de la pluie qui me tombait dessus, tandis que je m'efforçais de l'arrêter. Et le lieu étant haut et exposé au vent, parfois aussi vite que je l'obturais, le vent fort et violent le soufflait de nouveau. Bien d'autres exemples pourraient être avancés quant à l'état lamentable des prisons à l'époque que nous considérons, et quant aux souffrances déplorables, souvent jusqu'à la mort, que les premiers amis y endurèrent. Il est toutefois à l'honneur de notre époque plus éclairée, dont les successeurs de ces souffrants peuvent à juste titre revendiquer leur part de félicitations, que l'état des prisons soit aujourd'hui si largement différent. Quelques remarques ont déjà été faites au sujet de l'état instable du gouvernement, à l'époque où les amis furent d'abord rassemblés en une église distincte, et l'on a laissé entendre que l'effervescence politique, aussi bien que religieuse, dans laquelle, pour diverses causes, l'ensemble de la communauté fut jetée, constitua l'une des sources des souffrances que ce peuple dut endurer. En outre, il ne peut être dissimulé, quelle que soit la divergence d'opinion quant à l'opportunité de la chose, que c'est principalement la protestation zélée des amis contre les usages et le caractère dominant de leur temps, protestation à laquelle ils étaient fortement poussés par un sentiment de devoir religieux, qui les exposa aux persécutions qui les suivirent. Mais alors, d'un autre côté, on peut dire avec une égale vérité que les apôtres et les premiers chrétiens firent de même, et durent subir une épreuve semblable de la part des gouvernants et d'autres qui, dans les ténèbres de leur esprit, n'étaient pas capables d'admettre la validité de cette autorité divine sous laquelle les vrais croyants ont toujours reconnu qu'ils agissaient. On disait qu'ils bouleversaient le monde, et une accusation de cette nature s'attache nécessairement, à un degré plus ou moins grand, aux réformateurs de tout âge et de toute condition. Croyant et non sans des raisons bonnes et suffisantes à la mission divine de George Fox, de William Dewsbury et d'autres qui leur étaient associés, ceux-là n'hésiteront pas à affirmer que, lorsque ces ouvriers furent appelés dans la vigne du Seigneur, ils furent équipés selon le service qui leur était imposé. La part particulière de travail qui leur échut fut de poursuivre la grande œuvre de la réforme, et même sur certains points touchant au principe de la foi religieuse, de l'étendre beaucoup plus loin que ce qui avait été imposé aux réformateurs du Xe siècle. Bien que, pour cette raison, les premiers amis aient été accusés de nier les Écritures, parce qu'ils prêchaient hardiment une révélation de la connaissance divine à l'esprit de l'homme, ils le faisaient sous l'impulsion du Saint-Esprit, sur l'autorité même de l'Écriture, et sur le fondement de leur propre heureuse expérience. Dans la vue spirituelle de la dispensation chrétienne à laquelle ils furent conduits, ils étaient en vérité de véritables croyants et des défenseurs des Écritures, parce qu'ils rendaient un témoignage plus plein au dessein et à l'intention de ces écrits sacrés. Non seulement ils les reconnaissaient, avec autant de sincérité que d'autres, comme les dépositaires par excellence de la vérité révélée, mais ils ne reculèrent jamais devant le fait de soumettre à l'épreuve de l'Écriture, à l'exemple de tous les vrais réformateurs, ces questions, parmi les diverses sectes qui appelaient réformes, ainsi que leurs propres doctrines et pratiques. Mais en le faisant, on ne les soupçonna jamais d'avoir l'intention de passer sous silence ce fait important que le volume sacré lui-même a besoin d'un interprète saint. En effet, ce n'était autre que cet interprète lui-même, comme il le croyait, ouvrant les Écritures aux entendements soumis des premiers amis, qui leur montrait ces choses parmi les Églises qui, en ce temps-là, exigeaient et exigent encore la main de la Réforme et contre lesquelles ils furent appelés à porter un témoignage si public et si inébranlable. Ils ne furent pas non plus laissés dépourvus de preuves suffisantes de diverses sortes spirituelles, surnaturelles et providentielles, destinées, sans doute, à confirmer de temps à autre leur conviction que le Seigneur était lui-même avec eux dans leurs travaux. De quelle manière la grande œuvre de la repentance et de la régénération individuelle fut d'abord menée dans leurs propres esprits, nous l'avons maintenant sous les yeux dans le cas de William Dewsbury, qui n'était qu'un seul exemple parmi un grand nombre, auxquels il fut accordé de parvenir à la même expérience élargie. Mais le mauvais cœur d'incrédulité, sous des formes de raisonnement très spécieuses, s'efforce en tout temps d'ébranler la foi des faibles et des imprudents, souvent en insinuant que la superstructure de l'édifice céleste ne doit pas être faite des mêmes matériaux que le fondement. Or nous savons et sommes assurés que cela n'est ni scripturaire, ni n'a été la croyance des premiers amis. La même œuvre divine, selon ce qu'ils apprirent et enseignèrent, requiert en tout temps la même puissance divine pour la poursuivre. Le temps n'a produit aucun changement de circonstances de nature à invalider la vérité de cette proposition. L'homme naturel est le même à tous les âges, et il n'est pas plus capable un jour qu'un autre de comprendre avec goût les choses de l'Esprit de Dieu, car elles continueront toujours d'être pour lui une folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Quant aux preuves auxquelles il a été fait allusion plus haut, et qui sont abondamment disséminées dans les écrits des premiers amis, je présente la déclaration de fait suivante, de tonalité élogieuse, sortie de la plume de George Fox, afin de montrer le genre d'encouragement qu'il tirait d'expériences relevant du champ de ses propres travaux. Il dit, en ces jours-là, la puissance céleste opéra bien des choses grandes et merveilleuses. Car le Seigneur mit à nu son bras tout-puissant et manifesta sa puissance à l'étonnement de beaucoup, par la vertu de guérison de laquelle, beaucoup furent délivrés de grandes infirmités, et les démons furent assujettis par son nom, de quoi l'on pourrait donner des exemples particuliers, au-delà de ce que cet âge incrédule est capable de recevoir ou d'entendre. Mais béni à jamais soit le nom du Seigneur, et honoré éternellement, et par-dessus tout, exalté et magnifié soit le bras de sa glorieuse puissance, par lequel il a opéré glorieusement, et que l'honneur et la louange de toutes ses œuvres lui soient attribués à lui seul. La citation précédente n'est pas une énigme, elle rend un témoignage fidèle au fait de ce temps-là, bien que ni lui, ni ses compagnons, ni ses successeurs dans la croyance n'aient jamais accordé une grande importance à de tels événements, quelque vrais qu'ils fussent, et aient évité d'y insister comme preuve de leur ministère. Bien que dans les premiers temps, les amis avec George Fox et avec William Dewsbury, comme le lecteur le verra lorsqu'il parviendra à la scène finale, reconnu que de tels exemples d'extension merveilleuse de la sollicitude divine soient conformes à l'Écriture et à la saine raison, ils conclurent qu'il convenait, dans ces derniers âges de l'Église, de les recevoir simplement comme des assurances accessoires que la puissance du Seigneur est la même d'un jour à l'autre, plutôt que comme des preuves essentielles ou comme des fruits nécessaires de la. Mais beaucoup ont eu peine à concilier la conduite hardie et inflexible des premiers amis lorsqu'ils portaient leur témoignage ouvert et public contre les sectes et les partis dominants en matière de religion, comme si nul n'était dans le vrai sinon eux-mêmes. Que ce fut effectivement le cas de William Dewsbury, nous le verrons lorsque les événements de sa vie seront davantage exposés devant nous, et il en allait de même pour George Fox et pour les amis en général. On peut très légitimement demander, comment se fait-il que cela ne continue pas d'être, de nos jours, la ligne de conduite ostensible des amis ? Il y a peu de doute que ceux qui étaient satisfaits de la religion établie, ou ceux qui s'en étaient séparés pour former diverses sectes et nuances de dissidence, ait dû trouver très important et présomptueux que certains, bien que non sans précédent, remettent ainsi publiquement en question leurs principes ou leurs pratiques, d'autant plus que ces personnes n'étaient, dans la majorité des cas, que des hommes simples, ordinaires, illettrés. Je ne souhaite pas non plus que l'on m'entende comme justifiant chaque acte qui fut le produit de leurs ailes généralement bien dirigées. Astérisque, mais je suis prêt à affirmer, selon ma conviction, que la manière dont ils se présentèrent était bien adaptée à leur époque, que l'étendue du bénéfice pour la nation et pour l'Église résultant de leurs travaux et de leurs souffrances n'a jamais encore été pleinement calculée, et qu'ils furent le moyen de poser dans l'esprit des hommes le fondement de certains principes précieux, dont plus la mise en pratique se développera, plus grande sera la reconnaissance de l'humanité à cet égard. La question, par conséquent, concernant leurs premières pratiques, n'est pas de savoir ce qui pourrait être agréable ou paraître décent ou non, mais de savoir si le seigneur de la vigne jugea ou non opportun d'envoyer des ouvriers dans sa vigne d'une manière si particulière, et s'il requit ou non de ce service spécial, quelque répugnante ou révoltante que puisse paraître leur apparence aux professants charnels et hypocrites de ces temps-là. Car beaucoup de ces professants se révélèrent très vite ne pas être ce qu'ils prétendaient, les uns par la persécution empressée qu'ils soulevèrent contre la vérité, les autres par leur lâche accommodement pour éviter la persécution. D'un autre côté, nous savons sans contredit que, sous ce ministère, aussi simple et aussi peu acceptable qu'il fût aux esprits mondains, des milliers furent bientôt détournés du mal de leur voie, car les témoignages de documents authentiques, que toute l'histoire de la société confirme, nous apprennent qu'une puissance si merveilleuse accompagnait la première prédication de ce peuple, que des centaines de personnes en étaient vaincues à la fois et étaient convaincues des vérités qu'elles entendaient. Ainsi, quelque déplaisante que puisse être, pour l'esprit naturel, impatient et non régénéré, de telles interventions, le vrai chrétien, l'homme spirituel, ne peut douter que le ministère de ce peuple ne fût une nouvelle manifestation de cette dispensation, qui est l'amour de Dieu envers ses créatures. Quelque faiblement que les amis aient pu sembler occuper leur terrain en des temps plus tardifs, il mérite un examen très réfléchi de savoir pourquoi il en est ainsi, et si ces premiers ouvriers furent, ou non, divinement appelés à cette œuvre extraordinaire. Astérisque, l'auteur de 1836 peut presque croire que les premiers Quakers étaient conduits par l'Esprit de Dieu, mais il a quelques réserves, notamment que leur confrontation avec la chrétienté n'était pertinente que pour cette époque-là. L'Esprit de Dieu est infaillible et a envoyé de façon constante des centaines de Quakers témoigner contre les sectes et leurs ministres. Même la fille de 8 ans du juge Fell, Mary Fell, fut poussée par l'Esprit de Dieu à aller trouver le prêtre Lampitt pour lui dire que le Seigneur répandrait sur lui les coupes de sa colère, et lorsque le roi revint, il perdit son emploi de prêtre. Kamjl, au moins l'auteur de cette biographie, commençait-il à douter des doutes concernant les premiers amis, déjà répandus parmi les Quakers au début des années 1800, et désormais universels dans la société des amis. Malgré le fait que cet auteur supplie les Quakers du début du XIX siècle d'accepter le témoignage des premiers Quakers contre la chrétienté comme Babylone, il trahit même son indifférence, ou pire, son ignorance quant aux tromperies destructrices pour l'âme et aux calamiteuses illusions de la chrétienté, la prostituée de Babylone. Ne commettez pas l'erreur de supposer que George Fox, William Penn, Isaac Pennington, James Pownall, Margaret Fox, George Whitehead, Edward Burroughs, Francis Haugill et William Dewsbury étaient imparfaits et défaillants dans leur compréhension doctrinale. Un dirigeant Quaker conservateur me dit « Et qu'est-ce que George Fox avait que je n'ai pas ?» Quand je répondis « La perfection », cette personne dit « Ne me dites pas cela, même Pierre a renié le Christ 3 fois ». Dans un état de choc, je dis « Mais c'était avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte ». La personne répliqua « Oh, est-ce que cela fait une différence ?» Un Quaker conservateur accepte généralement la divinité de Jésus, emploie des « thee » et des « thou » et s'habille encore souvent comme les Quakers du XVIII siècle, appelant cela la tenue simple. De tous les Quakers, ce sont eux qui seraient le plus susceptibles d'affirmer les déclarations de Fox, de Dewsbury et des premiers Quakers, mais malheureusement, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ne possèdent pas, peut-être par crainte de devoir admettre qu'il y était ces guides aveugles non perfectionnés contre lesquels Jésus nous a mis en garde. Nous avons vu sous quel genre d'impression William Dewsbury agissait, en diverses occasions, dès sa prime jeunesse, et comment, par révélation, le mystère de l'iniquité et le mystère de l'Évangile, qui est selon la piété, lui furent manifestés, et par quels moyens il devint un capable ministre du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit. Lorsqu'il reçut ce qu'il croyait très assurément, et ce que l'événement prouva sans contradiction être un don et un appel divin au ministère, la parole qui lui fut adressée fut « Ce que je t'ai fait connaître en secret, déclare-le ouvertement. » Si sous de si claires impressions de devoir, et il en était de même pour d'autres de ses frères, ces hommes sortirent, comme leur vie à la main, pour publier l'évangile de paix, montrer au peuple ses erreurs et lui faire connaître ce qu'eux-mêmes avaient vu, goûter et toucher de la parole de vie, il semble qu'il faille une certaine prudence avant de laisser nos idées préconçues, ou nos volontés et raisonnements non soumis, se dresser en jugement contre une telle dispensation. Ainsi, comme Sewall nous l'apprend, on peut voir par quels moyens les Quakers, ainsi appelés, devinrent si nombreux en ces premiers temps. Car d'une part, on suscita des prédicateurs zélés, et d'autre part, il y avait en Angleterre abondance de gens qui, ayant exploré toutes les sectes, ne pouvaient nulle part trouver satisfaction pour leurs âmes affamées. Et ceux-ci, comprenant alors que Dieu, par sa lumière, était si proche dans leur cœur, commencèrent à y prendre garde, et trouvèrent bientôt que cela leur donnait bien plus de victoire sur la corruption de leur esprit, sous laquelle ils avaient longtemps gémi, que tous les cultes de volonté propres qu'ils avaient, avec quelques ailes, pratiqués pendant de nombreuses années. Et, outre ceux qui étaient ainsi préparés à recevoir une manifestation plus avancée de la voie de la vie, il y en avait aussi beaucoup qui, ayant le cœur transpercé et ayant été gagnés par la patience chrétienne des Quakers méprisés, devinrent aussi zélés à faire le bien qu'ils l'avaient auparavant été à faire le mal. Peut-être certains jugeront-ils très inconvenant qu'ils, les amis, aillent si fréquemment aux églises à clocher, et qu'ils y parlent aux prêtres, mais, quoi que l'on en pense, il est certain que ces docteurs ne produisaient généralement pas les fruits de la piété. Cela était bien connu de ceux qui avaient eux-mêmes été prêtres et avaient librement renoncé à leur ministère, afin de suivre le Christ dans la voie de sa croix, voir Haugill comme exemple. Cela comptait parmi les plus zélés contre cette société au sein de laquelle ils avaient auparavant exercé leur ministère avec un zèle droit. Pourtant, ils n'étaient pas pour user d'un langage dur contre de tels docteurs que, selon leur connaissance, craignaient Dieu, mais ils visaient surtout ceux qui n'étaient riches qu'en paroles, sans produire de véritables fruits chrétiens et des œuvres de justice. Astérisque ainsi Thomas Curti, qui avait auparavant été capitaine dans l'armée du Parlement, mais entra ensuite dans la société du peuple appelée Quakers, écrivit ce qui suit dans une lettre à Samuel Wells, prêtre de Banbury et persécuteur, « À ta honte, souviens-toi, je te sais scandaleux. Combien de fois as-tu été assis soir après soir à jouer aux cartes, parfois des nuits entières, jouant et me contraignant à jouer avec toi pour de l'argent, et pourtant alors le monde te appelait un ministre, et maintenant es-tu devenu persécuteur, etc. » Commentaire de l'éditeur du site, l'auteur trahit son ignorance de l'impossibilité, pour tout prédicateur qui n'a pas été rendu parfait en mourant sur la croix, de produire des fruits de piété et des œuvres de justice. L'auteur semble aussi croire que les Quakers corrigeaient des prêtres et des docteurs, au contraire, ils tentaient de les empêcher de conduire leur congrégation captive en enfer par de fausses promesses de salut, une fausse espérance, avec un faux évangile, avec une religion de rite plutôt qu'une religion de changement de cœur, avec une religion qui rendait le péché plus facile et sans culpabilité, des prêtres de Baal menant leurs adeptes à la destruction, des ministres de Satan parlant selon la divination de leur cerveau. Il fallait réduire leurs bouches au silence afin qu'ils cessent de proférer des mensonges qui laissaient leur congrégation captive du péché et destinée à la destruction de leurs âmes. Personne donc ne doit trouver étrange que ce qu'on appelait Quakers ait considéré de tels docteurs comme des mercenaires. Et qu'il n'y en eut pas peu de cette sorte apparu clairement lorsque le roi Charles y fut restauré. Car en bien des cas, ceux qui avaient auparavant crié contre l'épiscopat et sa liturgie, comme fausses et idolâtres, devinrent alors des renégats et revêtirent le surplis, afin de conserver la possession de leurs cures et bénéfices. Mais ce faisant, ces hypocrites ne perdirent pas peu de leurs auditeurs, car cela ouvrit les yeux de beaucoup, qui commencèrent à s'enquérir de la doctrine des Quakers méprisés, et virent qu'ils avaient un fondement plus sûr, et que c'était cela qui les faisait demeurer inébranlables contre la fureur de la persécution. Chapitre X-1655. Adresse à la nation, William Dewsbury, souvent prisonnier et libéré de la prison de Northampton, avertissement à ses persécuteurs et à ceux qui sont en autorité, voyage à Londres, Kent Land's End, travaux de George Fox en Cornouailles. Un frélo, William Dewsbury, tient une réunion chez lui, prévoit une tempête, des soldats l'arrêtent à Torrington, conduit devant le maire, son traitement délivré de leurs mains, écrit au maire, se rend dans le Somerset, Bristol, Pays de Galles, épître aux amis au sujet de... Dans les œuvres rassemblées de William Dewsbury, à la date de 1655, nous trouvons une adresse au peuple d'Angleterre, contenant le paragraphe suivant, Histoire de Sewall, vol. IP 97, 6 ed. 1834, qui fut jugé tout à fait digne de l'attention du lecteur. Ô Angleterre, qui gît dans un état de ruine et de perdition, séparée du Dieu vrai et vivant par tes iniquités, malgré toute ta profession de son nom en formes extérieures et en observances. Repens-toi, repens-toi, et tourne-toi vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui t'attend pour te faire grâce et pour faire de toi la gloire de toutes les nations du monde, si tu prêtes une oreille attentive à son conseil, la lumière qui est dans la conscience de chacun, d'attendre en elle le Seigneur Dieu, afin qu'il te guide par sa puissance. Et ceci qu'il m'a fait connaître te concernant, ô Angleterre, je dois te le déclarer de la part du Seigneur. Il y a quelques années, lorsque l'alliance éternelle de vie fut confirmée à mon âme dans le Seigneur Jésus-Christ, avec l'assurance que j'irai avec les rachetés du Seigneur à Sion, j'ai interrogé mon Dieu afin qu'il me manifeste où était Sion, pour que j'y retourne l'adorer en esprit et en vérité. Car il y avait en toi tant de cris confus, ô Angleterre, toi qui professes adorer le seul vrai Dieu, les uns disant « Voici le Christ est ici dans la pratique presbytérienne ainsi nommée, et l'indépendant ainsi nommé crie. » Mais le Christ a dit « Ne les croyez pas, ne sortez pas, car le royaume des cieux est au-dedans, et comme l'éclair qui brille d'une extrémité sous le ciel jusqu'à l'autre extrémité sous le ciel, ainsi sera aussi le Fils de l'homme en son jour, et je rends témoignage de cela. » Et tandis que j'attendais mon Dieu, afin qu'il me fasse connaître où était Sion, la parole du Seigneur vint à moi, avec témoignage à mon esprit, que le Christ n'était pas divisé, et qu'il n'y avait point de déchirure à son vêtement. Car le Seigneur est un, et son peuple un, et que toutes tes formes extérieures de culte ô Angleterre, où tu attends le Christ dans des observances sont contraires à sa volonté. Car le Christ a dit, « Le royaume de Dieu ne vient pas avec observation ou comme le note la marge, avec apparence extérieure, et l'on ne dira pas, voici ici, ou voici là. Car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et toute ton observation rigoureuse de tes formes extérieures n'est qu'une imitation des pratiques des saints, dans une sagesse babylonienne et païenne. Ainsi il n'y a rien en toi que confusion, et toutes tes formes extérieures sont le parvis extérieur, qui est hors du temple, que l'ange ne devait pas mesurer, car il est donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la ville sainte. Et cela m'a été fait connaître de la part du Seigneur mon Dieu, comme étant l'état et la condition dans lesquelles tu te tenais et te tiens, ô Angleterre, dans toutes tes formes extérieures et tes observances, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant la puissance. Et voici, sous toute ta profession, il y a l'oppression la plus cruelle, chacun selon son pouvoir en opprime un autre, du plus haut au plus bas. De sorte que le cri de la semence opprimée, au-dedans des cœurs de tes habitants, ô Angleterre, et de ceux qui sont opprimés par des oppressions extérieures chez toi, est parvenu aux oreilles du Seigneur Dieu du sabbat. Et il vient en puissance pour mettre en liberté les opprimés et les amener à Sion. Dans les richesses éternelles de son amour, il m'a fait connaître où était Sion, selon les désirs qu'il avait suscités dans mon cœur. Et la parole du Seigneur est venue à moi, disant, « Je rassemblerai mon peuple hors de toutes les formes et observances, et de toutes les familles, langues et nations, et je répandrai mon esprit sur eux, et j'ôterai leur souillure par l'esprit de jugement et de feu, et j'écrirai ma loi dans leur cœur, et je mettrai mon esprit dans leur entrailles, et ils ne se détourneront pas de moi. » Mais ils seront liés à moi en union dans la libre alliance de vie en le Seigneur Jésus et les uns aux autres dans l'unique esprit, ainsi le Seigneur sera et son peuple. Et ceci est Sion, la cité du Dieu vivant à qui appartiennent toutes les promesses du Seigneur selon les Écritures de vérité, où ils n'auront pas besoin d'enseigner chacun son prochain et chacun son frère disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand d'entre eux, car je ferai miséricorde à leurs injustices, et de leurs péchés et de leurs iniquités je ne me souviendrai plus. » C'est pourquoi prêtez attention à la lumière dans vos consciences, écoutez-la avec diligence, et elle frappera votre glorieuse image de forme et d'observance, et la mettra en pièces, et elle arrachera tous vos glorieux voiles de profession extérieure, et vous fera voir que malheur est à ceux qui sont couverts, mais non de l'Esprit du Seigneur. J'en appelle à la lumière dans vos consciences, qui me rendra témoignage éternel, si vous l'écoutez, afin d'être guidé par elle. Vous ne trouverez jamais le repos dans des formes et des observances extérieures, si ce n'est en dépouillant le corps du péché par l'obéissance de l'Esprit, afin que la justice de la loi soit accomplie en vous, qui ne marchez pas selon la chair mais selon l'Esprit. Car ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises, et le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant pour la justice. Vous devez en rendre témoignage, sinon toute votre religion est vaine, et vos âmes périront. William Dewsbury, une portion si considérable du temps de William Dewsbury s'est passée entre les murs des prisons. Que les matériaux dont doit être composé le récit de sa vie sont nécessairement très rares, et dans bien des cas, la suite des événements le concernant ne peut être rendue complète que par l'insertion de peu autre chose que des dates recueillies dans des épîtres qu'à diverses époques il adressa à ses amis et aux églises. Après sa libération de 15 mois de cruelle captivité, qu'il endura dans le cachot de la prison de Northampton, il eut le bonheur de jouir d'un répit assez considérable dans ce genre de souffrance, ce qui lui donna l'occasion de poursuivre ses devoirs religieux, selon qu'il plut à son grand et bon maître de les lui imposer. Mais avant d'être délivré de cette détention, il envoya l'avertissement suivant, animé et solennel, à ceux qui étaient en autorité et se trouvaient impliqués dans la culpabilité de ces persécutions sous lesquelles les amis souffraient alors. Il possède les caractéristiques particulières de l'esprit de l'auteur, aussi fortement que tout ce qui est sorti de sa plume. Commentaire de l'éditeur du site. La dernière phrase du paragraphe ci-dessus est une manière très subtile de dire que Dewsbury ne parlait pas d'après les instructions de l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, comme le faisaient les apôtres, et comme les Quakers prétendaient être dans le même esprit. Si Dewsbury et les autres centaines de Quakers étaient dans l'illusion, ils semblaient tous souffrir exactement de la même maladie mentale avec des symptômes identiques, ce qui dépasserait la simple coïncidence. Il y avait certainement une influence spirituelle, une influence qui mettait l'accent sur la piété et l'obéissance, la moralité et la vérité. On ne pouvait que conclure qu'il s'agissait de l'Esprit de Dieu, comme la Sainte Bible le promet aux croyants. Un esprit nouveau, un cœur nouveau, la perfection pour toujours, l'union avec Dieu au ciel avec lui pour voir sa gloire, tout en étant encore sur la terre seulement sanctifié, séparé et protégé du mal, rempli de l'amour, de la joie et de la paix de Dieu, et capable de dire la parole de Dieu, comme les apôtres. Le biographe de Dewsbury ne comprend pas que les paroles ci-dessous viennent directement de l'Esprit de Dieu, et non d'un esprit simplement particulier. À vous tous, dirigeants et juges de la terre, qui vous liguez contre le Seigneur et contre son moi, et formez vos complots dans les profondeurs, et tirez vos conseils de l'abîme sans fond, afin de prendre au piège la semence juste que le monde par dérision appelle Quakers, vous qui par amour pour vos âmes vous avertissons comme vous en répondrez devant le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, de cesser de comploter contre les justes et d'inventer de mauvais desseins contre les innocents. Car dans la lumière vous êtes vus, et vos œuvres secrètes de ténèbres sont mises au jour. Et vous tous qui ne voulez pas recevoir l'avertissement maintenant, lorsque le Seigneur vous appelle à vous tourner vers sa lumière, mais rejetez son conseil et persistez dans le mal de vos actions, pour vous ceci est la parole du Seigneur, vos complots et vos conseils ne réussiront pas contre les justes, car celui qui siège aux cieux rit, le Seigneur vous tournera en dérision. Car aucun complot ne prévaudra contre Israël, ni aucun conseil injuste ne subsistera devant le roi de Sion, qui vous brisera avec une verge de fer, et vous mettra en pièces comme un vase de potier, vous qui complotez contre lui pour vous opposer à son apparition dans les cœurs de ses saints. Car ce que vous faites au moindre d'entre eux, vous me le faites, dit le Christ, et il vaudrait mieux qu'une meule fût attachée à votre cou, et que vous fussiez jetés au fond de la mer, que de scandaliser le moindre de ceux qui croient en mon nom. De la part de l'Esprit du Seigneur, qui ne contestera pas toujours avec l'homme, vous êtes encore une fois avertis, maintenant, tant que vous avez du temps, de l'estimer, et de vous tourner vers la lumière du Christ dans vos consciences, qui vous fait voir le mal secret de vos cœurs. Et attendez dans la lumière, que la puissance du Christ détruise l'esprit méchant qui complote et invente, et qu'elle vous conduise dans le chemin droit et étroit du renoncement à soi-même, dans la croix quotidienne, et dans l'obéissance parfaite à la loi de Dieu, de peur que vous ne périssiez dans votre désobéissance. Car le Seigneur Dieu d'Israël se lève pour plaider la cause de son peuple persécuté et opprimé, et pour disperser comme poussière au vent tous leurs ennemis qui complotent contre eux. Car ceux qui complotent contre le peuple de Dieu et creusent des fosses pour lui, y tomberont eux-mêmes. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera, car tous sauront que Dieu est avec son peuple, et que le roi de gloire, qui est la force de son peuple, demeure sur le mont Sion, et que de sa domination il n'y aura point de fin. En ce jour-là, grands et petits, riches et pauvres, qui méprisent la miséricorde du Seigneur et demeurent dans l'inimitié contre lui et contre son apparition dans les cœurs de ses saints, sauront que ce qui vous est déclaré de la part de la semence juste est pour vous la parole du Seigneur Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Ce fut au 12e mois de 1655 qu'il recouvra sa liberté, et il est raisonnable de conclure qu'il ne s'écoulerait pas beaucoup de temps avant qu'il ne se rende à Wakefield pour rejoindre sa femme et ses enfants, après une séparation si longue et si éprouvante. Les amis, à cette époque, peuvent toutefois être dits s'être mariés comme s'ils ne s'étaient pas mariés, et d'avoir joui comme s'ils ne possédaient pas, tant ils étaient librement et sincèrement livrés au service de la cause du Christ. Nous trouvons en conséquence William Dewsbury, au 3e mois suivant, à une réunion à 2 miles de Northampton, sans qu'il soit fait mention de son retour au foyer dans l'intervalle. Là encore, il échappa de peu à la prison, et fut effectivement saisi à la réunion en compagnie de plusieurs autres amis, qui furent envoyés dans le même cachot qu'il avait lui-même occupé si récemment, et y furent détenus un temps considérable. Parmi eux se trouvaient John Crook, récemment juge de paix, et Thomas Stubb, homme instruit, tous deux par conséquent des personnes d'une certaine considération là où ils vivaient. En cette occasion, la détention de William Dewsbury ne fut que temporaire, il fut bientôt relâché. Ici s'ouvre une lacune de près d'une année dans le récit biographique, que l'éditeur n'essaiera pas de combler avec une exacte précision. Mais, d'après un mémorandum de la main de l'auteur, il semble que, s'il avait été épargné pour mener son dessein à son terme, Il aurait introduit ici quelques notices sur le rôle joué par William Dewsbury dans l'affaire touchante et désastreuse de l'un de ceux qui furent son compagnon de travail et un frère bien-aimé. L'affaire de James Naylor est peut-être aussi largement connue, voire une page séparée pour les détails tant du grand public que de la Société des Amis, que n'importe quelle circonstance de notre histoire, et il n'est donc pas nécessaire d'en dire beaucoup ici sur le sujet lui-même. L'inimitié et le préjugé cependant, ont su depuis ce temps jusqu'à présent tirer de cette affaire de fausses conclusions, et même dénaturer les faits simples, bien que des explications aient été abondamment publiées, disculpant la société et ses principes de la moindre implication dans l'ensemble de l'affaire. Sur ce point, on pourra consulter avec profit l'avis de James Naylor par J.G. Bevan, avec une réfutation de certaines des dénaturations plus modernes des amis. James Naylor, dit George Fox dans son journal, était un monument de la fragilité humaine. Son don dans le ministère était éminent, son expérience des choses divines véritablement grande. Il tomba par manque de vigilance, mais fut rétabli par de profondes souffrances et un repentir sans feinte. Ses propres écrits sont la description la plus claire et la plus vive des diverses dispensations qu'il traversa. Certains d'entre eux méritent d'être transmis à la postérité la plus éloignée. William Dewsbury parle d'un voyage à Londres et de la manière dont le Seigneur traita Naylor au cours de celui-ci. Il dit, « Lui qui a rendu la liberté à beaucoup de captifs, et ramener beaucoup de ceux qui s'étaient écartés dans un grand brisement de cœur, dans le sentiment de sa miséricorde en leur relèvement. J'ai été conduit par le Seigneur, poursuit-il, à Londres, selon sa volonté, pour le service qu'il avait déterminé en ce temps-là en ce lieu. J'étais rempli de consolation en lui, en contemplant son apparition parmi son peuple, lui qui rafraîchissait puissamment ses petits par sa propre présence, par laquelle moi et mes frères sommes rafraîchis en lui. Le Seigneur me mit fortement à cœur que mon cher George Fox et James Naylor se rencontrent ensemble. Mon travail en esprit fut grand, jusqu'à ce que le Seigneur répondit, ce qui, au jour qu'il avait déterminé, se fit. Grande fut sa majesté parmi son peuple, le jour où il guérit la brèche astérisque qui avait été si longtemps à la tristesse du cœur de plusieurs. Le Seigneur revêtit mes chers frères, George Fox, Edward Burroughs, Francis Haugill, d'une sagesse précieuse. Son esprit de guérison abonda en eux, avec le reste du peuple du Seigneur présent ce jour-là, selon leur mesure de l'Esprit du Seigneur en tout, qui s'étendit jusqu'à l'embrasser avec joie de cœur. Alors je fus rendu libre de quitter Londres, de traverser le Surrey, et ainsi d'aller à Bristol, pour y être le premier jour après, étant le 5 jour du 12e mois. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, des semaines avant l'incident, Fox avait averti Naylor par écrit de se dissocier de ses admirateurs serviles, et lui avait ordonné de les exclure de la société. Naylor ignora l'instruction. Lorsque Fox lui rendit visite en prison, avant sa libération qui aboutit à cette démonstration ridicule, il l'avertit deux fois qu'il était infecté d'un esprit trompeur. Naylor refusa d'accepter ses avertissements, voulant au contraire embrasser Fox, comme Judas, ce que Fox refusa. Après l'arrestation de Naylor et son transfert à Londres pour un procès-spectacle au Parlement, Naylor n'avait pas encore vu l'erreur de ses voies, et continua de défendre ses actes dans son témoignage devant le Parlement et les questionneurs désignés, ce qui jeta un discrédit supplémentaire sur le mouvement Quake. Le tout fut publié avec jubilation dans toute l'Angleterre afin de détruire le mouvement Quake. Ce fut l'heure la plus noire des Quakers. Ainsi, Fox était naturellement réticent à accueillir Naylor tant qu'il n'avait pas manifesté un repentir sincère, ce qu'il fit après ses terribles châtiments et son emprisonnement ultérieur. Cet incident fut si médiatisé et tourné au scandale en Angleterre que, de nos jours 2009, il existe à Bristol un festival annuel reconstituant toute l'affaire, avec une grande publicité internationale et une forte affluence du public dans une atmosphère festive qui jette encore l'opprobre sur le mouvement Quake. Avant de donner aux lecteurs d'autres extraits de cette lettre, relatifs à Bristol, il convient d'ajouter quelques mots sur la conduite de William Dewsbury et ses démarches envers James Naylor lui-même. Une communication très judicieuse du premier de ses amis au second, avec la réponse de ce dernier, est maintenant en la possession de l'éditeur, d'où il ressort que William Dewsbury avait veillé sur son frère fautif et aspiré vers lui, et qu'il avait vu clairement les étapes par lesquelles il était tombé, et les pièges subtils que Satan avait tendus sous ses pas. Il les retrace pour lui, lui rappelant ce qu'il en avait été pour lui à l'heure de sa tentation, et lui disant là où l'ennemi avait trouvé entrée, au point de triompher de lui et d'autres, comment ils avaient cédé à un esprit d'auto-exaltation, en ne demeurant ni dans la vérité, ni dans la lumière, ni dans la grâce par laquelle nous sommes sauvés, et par laquelle seule l'âme peut être tenue hors de portée de toute illusion, tromperie, vaine imagination, et comment, d'une admiration indue et d'un respect des personnes, ils en étaient venus. Il parle d'avoir été poussé à venir à Londres au service du Seigneur, et que, lorsqu'il y fut, il fit appeler ceux qui s'étaient ainsi emportés. Dans une tendre charité pour leurs âmes, je leur ai servi pour éclaircir leur entendement sur l'endroit où ils devaient retourner, afin que Dieu les guérisse, sur quoi certains d'entre eux, avec d'autres d'Essex et de Norfolk, furent courbés pendant qu'ils étaient avec moi, et je suis naître de leur sang, moi qui, dans un tendre amour, les ai poursuivis pour les rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais s'ils ne veulent pas entendre et retourner à la lumière, y attendre pour être rétablis, que leur sang soit sur leur propre tête, avec tous les esprits impurs qui se sont ménagés un abri sous vous, dans leur impudente méchanceté pour résister au conseil de Dieu, espérant que vous les approuverez dans ce qu'ils font, ce qui leur donne la force de lutter désespérément dans un esprit dominateur, et parfin en toute subtilité de proférer des paroles et d'accomplir de faux prodiges, au chagrin des âmes justes et au fardeau de la semence de Dieu. S'ils ne retournent pas au Seigneur, pour recevoir l'intelligence et marcher avec lui dans la fidélité à son conseil, ils se flétriront et périront certainement. La bouche du Seigneur l'a dit, lui dont l'esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Si vous les laissez dans leur tromperie, comme vous l'avez fait, et ne les reprenez pas, leur sang pèsera lourdement sur vous, et vous ne serez pas net. Cher James, je t'en supplie, dans une tendre charité en le Seigneur Jésus, attends-toi uniquement à son conseil, afin qu'il te donne l'intelligence de discerner l'œuvre de l'esprit trompeur. Malgré toute feinte, ce terrain consiste à établir un maître sur la terre, et ainsi à susciter la discorde parmi les frères. Le Seigneur Dieu a tourné sa main contre eux, et les renversera, eux et tous ceux qui se joignent à eux sur ce terrain trompeur. À mesure que le Seigneur te donne le discernement et te meut dans sa force éternelle, lève-toi et juge cet esprit trompeur qui a fait souffrir la vérité et t'a fait tort. Alors le Seigneur te donnera la domination sur lui. Ainsi tu seras net de leur sang, et il en est parmi eux que Dieu restaurera encore, par leur attente dans la lumière pour être purifié par le jugement. Que ce qui a été fait à l'heure de la tentation soit jugé par la lumière et la vie, afin que dans la lumière et la vie de notre Dieu, tout le corps puisse croître dans l'unité de l'esprit, pour se supporter l'un l'autre, se servir l'un l'autre, s'édifier l'un l'autre, afin que, parmi tous, il n'y ait point d'autre maître que le Christ, notre tête. Beaucoup attendent d'entendre que tu te relèves dans la lumière et la vie, pour abattre et régner sur cet esprit, qui a cherché et cherche à mettre le désordre et la discorde parmi les frères. Dieu Tout-Puissant, rends à une intelligence pure tous ceux qui ont été voilés, dans ta vie garde-les dans l'unité avec tous tes élus, afin qu'ils te servent fidèlement jusqu'à la fin. Amen. La réponse de James Naylor manifeste partout un état d'esprit aussi clair et convenable qu'on pouvait le souhaiter. Commentaire de l'éditeur du site, un esprit clair et convenable est le jugement de l'éditeur. L'humilité feinte est très difficile à discerner sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Les jugements des Quakers de l'époque, y compris William Dewsbury, différaient. Voyez la lettre de George Fox à Naylor et les lettres 1, 2 et 3 de Richard Hubeson à Margaret Fell, écrites après que Richard eut rendu visite à James Naylor en prison. Tous le jugèrent hors de la vérité, mais Naylor finit par reconnaître sa faute et se repentit sincèrement, pour revenir à Bristol. Lors des premières visites des amis dans ce lieu, il y eut de grands troubles de la part de la populace, excités par les prêtres et encouragés par les magistrats, comme le rapporte Sewell et d'autres. On présume que cela ne remontait, au plus, qu'à 2 ans avant l'arrivée de William Dewsbury, et sa lettre, de manière vive, brosse un tableau de ces temps-là, ainsi que de la protection et de la force accordées aux petits fidèles du Seigneur. Les 6e et 7e jours avant notre arrivée, les apprentis, avec les gens grossiers, couraient dans les rues, des épées nues à la main, si nombreux qu'il était difficile de passer au milieu d'eux. Le premier jour, j'étais à la réunion où le Seigneur les enchaîna tous par sa puissance toute-puissante, la réunion fut précieuse, et son peuple fut consolé par un rafraîchissement vivant en sa présence. Ils furent gardés tranquilles, en paix, sans le moindre trouble. La nuit, il y eut une réunion chez Denis Olisté. Beaucoup de gens grossiers, leurs épées à la main, se tenaient dans les rues, où ils pouvaient entendre. Le Seigneur les tint tranquilles. Les amis passèrent au milieu d'eux lorsqu'ils s'attroupèrent, et ne reçurent aucun mal. Le lendemain, ils furent plus grossiers qu'auparavant, certains battant leurs maîtres et n'autorisant pas l'ouverture des boutiques, menaçant les amis qui ouvraient les leurs. Ils ne tinrent compte ni du maire ni d'aucun de ses officiers, mais firent ce qui leur était permis, comme bon leur semblait. Beaucoup de fois ils coururent dans les maisons des amis durant ce tumulte, mais n'eurent pas la puissance, une fois entrés, de faire le moindre mal. Au plus fort de leur folie, les gouvernants ayant appris qu'une réunion devait se tenir le 3e jour de la semaine, étant le 7 du mois, chez Edward Piot, annoncèrent ouvertement parmi les gens de la ville qu'ils viendraient la disperser. Quand nous fûmes assemblés au nom du Seigneur, certains d'entre eux se préparèrent à venir. L'un jurant et blasphémant le nom du Seigneur Dieu du ciel et de la terre, dit qu'il couperait les Quakers en morceaux aussi petits que des herbes pour le pot. et pour accomplir son dessein sanguinaire, il alla vers la garde pour prendre une hallebarde, afin de satisfaire son esprit assoiffé de sang. Le Dieu de notre salut permit qu'il arrivât ceci, ceux de la garde ne voulurent pas lui donner la hallebarde. Alors une crêle s'éleva parmi eux, et il tomba dans la fosse qu'il avait creusée, car il fut transpercé au travers du corps. Ainsi Dieu empêcha leur intention sanguinaire. La réunion fut précieuse dans la vie de notre Dieu, et les amis se séparèrent avec joie dans le Seigneur. Les gens grossiers étaient pleins de folie, et ayant entendu parler de l'importance de la réunion, ils s'appelèrent les uns les autres à tuer les amis lorsqu'ils entreraient par les portes. Mais le Seigneur les en empêcha, de sorte que les amis ne reçurent aucun mal. Le Seigneur lia les mains des méchants. Pourtant l'envie demeurait en eux, et ils étaient pleins de rage d'avoir manqué l'occasion où ils voulaient faire un tel tort. Ils vinrent dans la nuit, vers la huitième heure, chez Edward Piot. Certains amis s'y trouvaient, quelques-uns de la Nouvelle-Angleterre, bannis loin de leurs femmes et de leurs enfants sous peine de mort. Nous étions courbés devant notre Dieu, et la prière lui fut adressée lorsqu'ils frappèrent à la porte. Il vint à mon esprit que c'étaient les gens grossiers. Alors la vie de Dieu s'éleva puissamment, et ils n'eurent aucun pouvoir d'entrer jusqu'à ce que nous fussions en règle devant notre Dieu. Alors ils entrèrent, entourant la maison de mousquets et de mèches allumées. Et après un délai, ils entrèrent dans la chambre où j'étais, avec Amos Todard. Je les regardai lorsqu'ils entrèrent, et aussitôt ils crièrent, aussi vite qu'ils le pouvaient, « Nous serons civils, nous serons civils !» Je prononçai ces paroles, « Veillez à l'être !» Là-dessus ils s'enfuirent hors de la chambre, et n'y revinrent plus, mais coururent de haut en bas dans la maison, leurs armes à la main. Le Seigneur Dieu, qui est le Dieu de sa semence, contre laquelle aucune arme forgée ne prospérera au-delà de ce qu'il voit être pour sa gloire et la consolation de son peuple, fit défaillir leur cœur. Ils s'en allèrent, et aucun mal ne fut fait à aucun de nous. Béni soit le Dieu de notre salut. Le lendemain, il me vint de me rendre à Bristol et de marcher dans les rues au milieu de leur foule, Denis Olisté, Edward Piot et Thomas Gouldney étant avec moi. Nous passâmes chez George Bishop et traversâmes l'endroit où ils étaient rassemblés. La majesté de notre Dieu frappa leur cœur, et tous restèrent là à nous regarder. Peu de paroles furent prononcées, mais certains dirent « C'est l'un des prédicateurs Quakers ». Ainsi nous eûmes un temps précieux avec les amis, et je quittai la ville de Bristol avec une grande clarté et liberté, les amis étant très précieux dans la domination de la vie de Dieu, en laquelle ils considéraient sa miséricorde, lui qui avait suscité John Odlan et certains frères parmi eux, pour les fortifier à demeurer sous ses épreuves. Le 10 jour du mois, nous avons traversé l'eau pour entrer au pays de Galles. Les amis, en général, vont assez bien à mesure que nous passons. Le 24, nous sommes arrivés à une réunion près de Leominster, et le 26 à Woust. La nuit avant notre arrivée, les gens grossiers s'agitaient en grande folie, allumant des feux dans les rues, et les soldats les réprimaient. La nuit de notre arrivée, ils se levèrent avec une grande grossièreté, de sorte que les soldats, le maire et les gouvernants de la ville furent debout une grande partie de la nuit pour les contenir. Le Dieu de notre salut nous a préservés, et nous eûmes une réunion paisible, qui dura de nombreuses heures, et la présence du Seigneur fut puissamment parmi son peuple. Le lendemain matin, les amis se réunirent au lieu de réunion vers la huitième heure. Le Seigneur a précieusement satisfait les désirs de son peuple par sa présence, en laquelle nous nous sommes séparés les uns des autres. Nous sommes allés à Tewkesbury, où il y eut une réunion utile le soir, certains amis s'y trouvant, qui exercèrent le ministère comme le Seigneur les y porta. Walt Jenkins, un Gallois en qui la puissance du Seigneur agit, a été assez souvent avec moi. Si vous en êtes libre, vous pouvez lui écrire. Il peut être d'un bon service parmi le peuple du Seigneur au pays de Galles, s'il demeure dans la vie, pour en être conduit. Il y eut une grande réunion le 28 jour du mois, à 3000 de Tewkesbury, et la présence du Seigneur rafraîchit son peuple. Aujourd'hui une réunion à Evesham, et demain à Shipston, si Dieu le permet. Ensuite, selon ce que le Seigneur ordonnera dans sa volonté. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous, votre famille, avec tous les fidèles, et que le Seigneur, par sa présence céleste, console les cœurs de tous ceux qu'il aime, et qui attendent avec droiture de cœur pour faire sa volonté. William Dewsbury salué de ma part Robert Wade et John Odlan. Si vous en avez la liberté, vous pouvez leur faire savoir comment se porte le peuple du Seigneur à Bristol et ici. Le 9 du 2 au mois 1657, William Dewsbury date une épître de Londres. Mais avant cela, une lettre à Margaret Fell indique qu'il était passé par le Norfolk, le Suffolk et l'Essex en chemin. Peu de détails sont donnés, mais il déclare qu'il a trouvé les amis, selon leurs mesures, précieusement affermis dans la vie, et qu'il y avait un grand peuple dans ces contrées. Éditeur. Arrivé à Londres, il semble y être resté un peu moins de 6 semaines, puis être allé de l'avant vers le Kent, de ce district, dans une épître datée du 22 du 3e mois, Il donne les indications suivantes sur l'obéissance spirituelle et l'exercice des dons en vue du ministère. Je vous le mets à cœur. Attendez le Seigneur afin qu'il vous scelle sa pensée pour que, dans ses mouvements, vous répondiez à sa volonté en paroles et en œuvres. La lumière vous guidera pour connaître l'intention de chaque mouvement, afin que, par elle, vous puissiez demeurer approuvé dans l'intégrité de vos cœurs devant Dieu. Chacun en particulier, soyez fidèles dans la puissance de Dieu, afin que dans tous les mouvements de l'esprit de vie, la sagesse terrestre avec tous ses raisonnements et ses consultations soit jugée et rejetée, et que tous connaissent l'homme nouveau en Christ et l'outre nouvelle qui conserve le vin nouveau qui vous est confié dans le royaume de Dieu pour rafraîchir vos âmes et les rendre joyeux en sa présence, et ainsi exercer le ministère dans sa puissance vivant et sa sagesse pour le rafraîchissement de l'âme lasse et opprimée avec la consolation. Ainsi vous viendrez tous au ministère pur dans la vie. Comme Dieu vous meut, soyez fidèles, n'étouffez pas la naissance, n'éteignez pas les mouvements, et en la présence du Seigneur, je vous avertis, attendez une intelligence dans la vie pour vous conduire. N'ajoutez ni ne retranchez, ainsi la mort, avec tout son formalisme, sera tenue hors de votre milieu. William Dewsbury de sa visite dans le Kent, le seul vestige supplémentaire est tiré de la communication à Margaret Fell, mentionnée ci-dessus, dont la date est près de Sandwich, le 3 du quatrième mois. Il dit qu'il a eu de grandes réunions depuis son arrivée dans le comté, et que la puissance du Seigneur a pénétré chez beaucoup d'entre eux. Il parle aussi d'avoir été à bord d'un navire dans les Downs, où se trouvait un certain nombre d'amis, hommes et femmes, en route pour la Nouvelle-Angleterre au service de l'Évangile. Il dit qu'ils étaient hardis, selon leur mesure, dans la puissance de Dieu, et ajoute que sa présence éternelle les garde dans l'unité de la vie et les fasse prospérer dans son œuvre. Le maître du navire, Robert Fowley, donna plus tard quelques récits de la main de la Providence avec lui durant sa traversée, qui fut appelée à Quaker Sea Journal. Il y mentionne le rafraîchissement qu'ils eurent par la compagnie de William Dewsbury et qu'il les recommanda à la grâce de Dieu. Éditeur du Kent, il voyagea vers l'ouest jusqu'au Land's End, prêchant la parole de la vie éternelle à travers les comtés du Sud. Aucun récit n'a été conservé sur la manière ou les lieux où il fut particulièrement occupé entre la date ci-dessus et celle du 17 du septième mois, lorsqu'il écrit une lettre du Land's End, dans laquelle il rapporte les détails de certaines épreuves qui lui survinrent avant d'atteindre cette partie du pays. L'année précédant l'arrivée de William Dewsbury en Cornouailles, George Fox avait parcouru la majeure partie de ce comté, de sorte que le terrain était déjà défriché pour les ouvriers suivants. « Grande, dit le premier, fut l'œuvre de mon Dieu dans ce pays. Le premier jour de la semaine, étant le 27 du mois, il était à une réunion chez un Fellow, qui avait autrefois été juge de paix. Il était l'un des nombreux qui avaient été convaincus par George Fox lorsque celui-ci était prisonnier à la prison de Launceston, où il subit 9 mois d'enfermement, une partie du temps dans les circonstances les plus révoltantes, dans le cachot de la prison, appelé Dormsdale, dont quelques détails ont été rapportés plus haut. Ce Fellow, George Fox le décrit comme un homme grave, sobre, âgé, qui, entre autres, vint lui rendre visite lorsqu'il y était prisonnier, et fut pleinement convaincu, et demeura ainsi jusqu'à sa mort. C'est à la maison de Lowe que se tint la réunion de William Dewsbury, et il était un proche voisin du haut shérif du comté, un homme, comme l'écrit William Dewsbury, qui était méchamment opposé à la vérité de notre Dieu. On disait qu'il menaçait de disperser la réunion, mais dans la puissance de mon Dieu, je tins bon ce qu'il enchaîna, et la réunion continua précieuse dans le Seigneur. Le 29, William Dewsbury était à une réunion à Launceston, après quoi il poursuivit son voyage dans le Devonshire, son esprit ayant été fortement impressionné d'une appréhension, comme le Seigneur le lui avait fait voir, qu'il rencontrerait une tempête dans ce comté, ou près de celui-ci, ce qui arriva en effet à Torrington. Il y fut arrêté et, sous la garde de soldats, amené devant le maire et d'autres fonctionnaires, fortement gagnés à l'esprit persécuteur du temps. Certains d'entre eux, dit-il, furent très cruels et méchants contre la vérité de Dieu, et se conduisirent très rudement envers moi. Dans une grande colère, ils ôtèrent mon chapeau de ma tête, le jetèrent à terre, et me jetèrent en prison pour 2 nuits et près de 3 jours. Il fut maintes fois amené devant eux, et ils l'accusèrent d'être un jésuite et un étranger, et lui lurent de nombreuses lois nouvelles, menaçant de procéder contre lui comme contre un vagabond. En quoi, dit-il, le Seigneur régna sur eux. Puis ils lui lurent le serment d'abjuration, le piège ordinaire par lequel on attrapait les amis à cette époque, et ils lui dirent qu'il devait le prêter. Il refusa, en raison du témoignage qu'il avait à rendre contre toute prestation de serment sous l'Évangile, non moins contre le pape et toute idolâtrie que contre les autres points compris dans le serment. Au second jour de son examen, vers la nuit, il fut amené dehors, et ils lui demandèrent comment il était devenu ministre du Christ, sujet auquel il avait déjà été fait allusion. Il leur paraissait mystérieux qu'un homme puisse être dans le chemin de son devoir en laissant sa femme et ses enfants dans le nord de l'Angleterre pour prêcher la parole de la vie éternelle à travers les comtés du sud jusqu'en Cornouailles. Et quand, en réponse à leurs questions, il fut libre dans le Seigneur de leur déclarer comment il en était venu à être ministre du Christ, ils furent si touchés au cœur que l'un des juges pleura, et que le greffier dit « Si vous aviez parlé ainsi plus tôt, cela ne serait jamais arrivé. » Mais il semble y avoir eu une grande confusion d'intentions et une divergence d'opinion parmi les magistrats, de sorte que, lorsque Dewsbury tenta de parler davantage sur ce sujet, on ne lui permit pas. D'autres, offensés par son chapeau, s'emportèrent contre lui parce qu'il le gardait, et il fut renvoyé en prison. « Bien des fois, dit-il, j'ai été amené devant eux pour voir s'ils pouvaient me prendre au piège, mais dans la sagesse de Dieu, je suis demeuré innocent. » Le cas était difficile, et il y avait parmi eux une puissance à laquelle ils ne voulaient pas être soumis, mais qu'ils étaient incapables de maîtriser. Car bien qu'ils aient établi un mandat mitimus pour faire transférer le prisonnier à la prison commune d'Exeter, ils étaient si divisés que certains s'opposaient à ce qu'il y soit envoyé. Mais le maire, celui qui avait le principal pouvoir, lui dit qu'il ne verrait plus son visage jusqu'à ce qu'il fût devant le juge à la prochaine session d'assises à Exeter. « Faites de moi ce que vous avez pouvoir de faire, mon innocence plaidera pour moi, » répondit Dewsbury, et il fut reconduit en prison, où il resta couché sur le sol nu, demeurant dans cet état jusqu'au 2e jour du 8e mois. « Alors, dit-il, je fus amené devant eux. Mon Dieu avait plaidé ma cause et changé le cœur de l'homme, ce qui fit défaut en eux. Car l'homme qui avait dit « que je ne verrai plus son visage jusqu'à ce que je sois devant le juge à Exeter » déchira le mandat en morceaux devant moi et me dit « Vous êtes libre. » Ainsi mon Dieu me délivra des mains d'hommes déraisonnables, selon la promesse qu'il m'avait faite, louange à son nom pour toujours. Avant de quitter Torrington, il adressa une lettre pressante et fidèle au maire de la ville, lui disant que lui et d'autres en charge avaient abusé de leur pouvoir et avaient levé la main contre l'innocent, que, dit-il, vous avez blessé autant que vous l'avez pu. Dans la crainte de Dieu, considérez ce que vous avez fait. Est-ce là le fruit de vos jeûnes et de votre humiliation, comme vous le dites? Lorsque, cela fait, vous frappez du poing de la méchanceté, et qu'au lieu d'accueillir des étrangers, vous les traitez si barbarément, vous devrez en rendre compte au juge du ciel et de la terre. » Il se référa ensuite à certains passages de la fin du 25e chapitre de Matthieu, leur disant qu'il serait vain de dire « Quand t'avons-nous vu avoir faim, et ne t'avons-nous pas nourri, etc. » Ce qu'il ne l'avait pas fait au moindre des frères, et il les appelle à estimer leur temps et à ne pas mépriser le jour de la miséricorde de Dieu, à incliner leur oreille à son conseil, la lumière divine dans leur conscience, qui leur découvrirait le mal de leur cœur et leur procédé injuste envers des hommes innocents, afin que le Seigneur leur donne la repentance qui mène à la vie, de peur qu'autrement ils ne périssent au jour de sa colère ardente, quand il rendra chacun selon ses œuvres, et enfin il prend congé en exprimant son. Ayant ainsi recouvré sa liberté, il poursuivit sans délai son voyage dans le Somersetshire, et le 4 du 8e mois, il se trouva à une grande réunion dans ce comté, et passa une nuit dans la prison d'Ilchester, avec Thomas Saltraus et d'autres, qui y étaient emprisonnés. Le lendemain, il continua vers le Wiltshire, où il tint une autre réunion. Le 11 étant le premier jour de la semaine, il se trouvait à une réunion que l'on estimait avoir rassemblé 2000 personnes. À ce sujet, il dit « Mon Dieu a été puissant dans sa force pour la gloire de son nom ». Il traversa ensuite le Gloucestershire, puis se rendit à Bristol, qu'il atteignit le 18 du mois. Il est peu probable que la fin de ses services durant ce voyage ait eu lieu à Bristol, car d'après une lettre de sa femme à un ami, il semblerait que, le 28 du 8e mois, il avait l'intention d'entrer au pays de Galles. Il existe aussi une lettre de lui-même qui, bien qu'elle ne porte pas de date, peut être rapportée à cette période. Un extrait nous permet de voir combien ses exercices et ses labeurs dans cette région durent être grands, et qu'ils ne furent pas vains dans le Seigneur, son guide, conseiller et secours. « Notre Dieu, dit-il, dans sa miséricorde exauce les prières de son peuple, en ramenant ceux qui ont été chassés à l'heure de la tentation, et maintenant il cherche ceux qui étaient perdus, et rétablit les dispersés de la maison d'Israël. Beaucoup au pays de Galles et ailleurs reviennent, le cœur brisé, de ce qu'ils ont fait contre le Seigneur et ses serviteurs, et Dieu leur pardonne et les restaure dans sa miséricorde. » Et la plupart des réunions qui avaient été dispersées sont, par la miséricorde de notre Dieu, rétablies. Beaucoup ont reconnu ouvertement leur condamnation pour ce qu'ils avaient fait contre le Seigneur à leur honte et à sa gloire, lui qui fait prospérer son œuvre de sa propre main, et qui de son bras étendu glorifie son nom pour notre consolation, nous qu'il a choisi pour faire sa volonté, à sa gloire, lui qui en est digne, béni soit son nom à jamais. Éditeur, le récit de ce voyage se conclura par l'épître suivante, datée de Cornouailles, 1657, qui est maintenant imprimée pour la première fois. frères et sœurs dans la semence immortelle que le Seigneur a placée à Plymouth et aux environs. Le Seigneur, dans sa tendre amour, attend de faire de vous pour lui un sacerdoce royal à jamais. Veillez tous selon la mesure de lumière, y croyant, afin que l'Esprit de Dieu puisse se lever, pour maintenir vos esprits fermement arrêtés sur le Seigneur. Là vous trouverez la source de la miséricorde vivante de Dieu, ouverte à vous tous, rafraîchissant vos âmes, et couronnant sa propre semence de domination, pour vous garder fécond dans sa vie, afin de louer son nom au siècle des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous garde dans l'unité dans la semence immortelle, pour servir le Seigneur d'un même consentement, jusqu'à l'achèvement de votre course avec joie, à la louange de son nom. Ainsi en soit-il pour vous, dans la puissance du Seigneur Dieu. Amen. William Dewsbury. Lorsque l'Église du Dieu vivant est réunie, ceci doit être lu dans sa crainte. Suite. Le but de ce site web est de montrer comment être délivré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.